avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, quelles sont les conditions de vie des étudiants? Leur population augmente presque partout, pas à la même vitesse d'ailleurs en Afrique qu'en Europe, certes, mais c'est une population en tout cas de plus en plus diversifiée qui connaît désormais des problèmes communs, récurrents. Logement, loisirs, bien-être, les étudiants vivent-ils finalement plus mal que leurs parents? En tout cas pour ceux qui avaient des parents étudiants. Depuis la crise de 2008, la dégradation est palpable en Europe, moins forte que prévue en France, mais avec l'augmentation des frais de scolarité dans certaines filières, dans certains pays, on sait que les étudiants travaillent de plus en plus parallèlement à leurs études, 20 heures par semaine en moyenne en Amérique du Nord, ce qui retarde l'obtention des crédits ou qui gêne la réussite aux examens. Alors du Nord au Sud, à quoi ressemble la vie étudiante aujourd'hui, ou les vies étudiantes? Peut-on encore parler d'une parenthèse heureuse, insouciante dans la vie des jeunes? C'est à vous de nous répondre, bien sûr, les voisins et les voisines. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Camille attend vos appels et bien sûr, on vous donne la parole en direct dans l'émission sur RFI. Tous vos témoignages également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous présente mes invités, Jean-François Giret, co-auteur d'un rapport sur la France, les vies étudiantes, tendances et inégalités. Bonjour Jean-François Giret.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences de l'éducation à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, directeur de l'IREDU, qui est l'Institut de recherche sur l'éducation, toujours dans la même université. Et vous êtes président du collège scientifique de l'Observatoire national de la vie étudiante, qui publie cette grande enquête sur 41 000 étudiants. Vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Bourgogne. Julia Fauconnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous travaillez pas mal sur le logement étudiant à Studirama, qui est un magazine vraiment centré sur la vie étudiante, surtout pour donner des solutions en général aux jeunes et des conseils.
Tout à fait, il y a toute une partie orientation, formation et toute une partie donc, notamment sur le site internet, sur la vie étudiante, le budget, le logement sur Mapiole, les conditions de vie.
Mapiole.
Voilà. Mapiole.com, c'est le site qui est vraiment spécialisé sur le logement étudiant.
Voilà, c'est du langage familier mais tout le monde comprend.
Hein. Exactement.
Parce que trouver une piole en début d'année universitaire pour un étudiant en France, eh ben, c'est pas du gâteau. On sera également en ligne avec la sociologue Cécile Van de Velde à l'Université de Montréal. Également co-auteur du rapport sur les vies étudiantes en France. Elle nous parlera surtout des étudiants nord-américains, puisqu'elle enseigne à l'heure actuelle au Canada. Et puis on reviendra sur le mouvement étudiant en Afrique du Sud avec notre correspondante Alexandra Branjon. Je vous lis quelques messages postés sur le fil Facebook chez nous. C'est vraiment un cortège de désillusions. Je ne sais pas comment il faut interpréter ces messages. Vous nous le direz, Jean-François Giret, s'il y a des similitudes avec les étudiants en France, ou en tout cas avec l'état d'esprit. Giro est à Brazzaville, au Congo, Brazzaville. Je vis dans le campus de mon université, nous dit Giro. L'état des locaux dans lequel nous vivons est indescriptible. Même en enfer, on ne vit pas comme ça. Péoulne est à N'Djamena, au Tchad, au lycée, tout le monde salive en regardant les murs imposants des universités. Mais personne ne sait avant d'y entrer que derrière ces murs, la mort se balade et que les temps sont durs, la raison s'évade. Au Tchad, c'est comme ça, surtout à la faculté de médecine. Richard est au Burkina Faso, à Ouagadougou. Les étudiants sont confrontés à beaucoup de problèmes, nous dit Richard. Lorsqu'on est au lycée, on envie ces étudiants. On pense que la vie devient rose. En fait, c'est l'enfer qui t'attend. Abdelaziz est également, lui, à N'Djamena, au Tchad. Une fois arrivé à l'université, je me suis rendu compte qu'il y avait surtout des problèmes. Le logement coûte cher. On nous demande des avances de 6 mois. Il faut cuisiner pour soi-même pour la première fois, alors que l'emploi du temps est tellement chargé et que tu n'as pas le temps. Bref, être étudiant, c'est pas facile et c'est pour cela que beaucoup abandonnent. Bandoumal, également à N'Djamena, nous dit que certaines universités n'ont même pas de bibliothèque, de laboratoire, de toilettes, de terrain de sport, d'amphithéâtre, de restaurant. Julien à Porto Novo, au Bénin, également nous dit que les conditions de vie des étudiants sont extrêmement pénibles et de pire en pire. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
On donne la parole à des auditeurs qui nous appellent au 33 1 84 22 71 71 sur les conditions de vie des étudiants, où que vous soyez dans le monde. On donne la parole d'abord à Mamour qui est à Dakar. Bonjour Mamour.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux voisins et aux voisines.
Vous êtes étudiant en géographie à l'université Charanta Diop, c'est ça, en master 2?
Oui, bonjour, c'est ça. En fait, ici à l'université Charanta Diop, les étudiants comptent plus de 75 000 étudiants pour un nombre de 3 000 lits.
Oui, 80 000 même, pour 3 000 lits.
Oui, pour 3 000 lits, vous avez un ratio de 25 étudiants par lit. Donc, le principal problème des étudiants ici à l'université, c'est le logement.
En fait, tout le monde n'est pas censé être logé sur le campus, hein, ceci dit.
Oui, tout le monde n'est pas logé. Même au niveau du campus, tu vois une chambre à deux, mais les étudiants sont obligés de se retrouver à 6, voire 8, au maximum 10.
C'est ça.
Même il y a des étudiants qui passent la nuit au niveau des couloirs.
Qui sortent des matelas, c'est ça?
Oui, si ce sont des matelas, vous venez avoir des tentes de camping pour passer la nuit là-bas. En tout cas, ici à l'UQAD, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour le logement. Même au niveau des alentours de l'université, vous avez un problème de trouver un logement parce que les logements coûtent cher. Tu es obligé de donner une avance de 3 mois. Imaginez un étudiant qui a une bourse de 18 000 ou bien 36 000 par mois. Imaginez comment il va pouvoir payer un logement de 3 mois. Et les chambres, c'est se loue à 50 000 francs par mois. Et on te demande de donner une caution de 3 mois. De 3 mois, ça te fait 150 000. Imaginez-vous les étudiants qui viennent au fin fond du Sénégal, qui n'ont pas de logement, ils n'ont pas de parents ici à Dakar. Sont obligés de passer la nuit à la Belle Étoile.
Oui. Le véritable coût pour les étudiants, bien sûr, ce n'est pas les frais d'inscription qui sont extrêmement modiques, il faut bien le préciser, hein, dans toute l'Afrique de l'Ouest.
C'est extrêmement difficile.
C'est le logement, le vrai problème. Là.
Oui, le vrai problème. Même au niveau de la restauration, tu es obligé de faire 2 heures de temps au niveau de la queue pour avoir accédé au niveau du restaurant.
2 heures d'attente
pour manger.
Deux heures d'attente pour être servi.
Minimum. Tu es obligé de faire 2 heures de temps. Pour avoir accédé au restaurant pour manger.
Donc pendant ce temps, les cours ont déjà repris?
Bien sûr, les cours, les professeurs ne vous attendent pas. Même au niveau du côté pédagogique, il y a des problèmes là-bas. Au niveau de la première année, tu vois des étudiants qui suivent leurs cours à travers les fenêtres ou bien à travers les portes. Il y a des étudiants même qui assis au sol pour suivre leurs cours.
Mais Mamour, vous avez dit que vous avez dit au standard que vous avez 30 ans, c'est bien ça?
Oui, j'ai 30 ans.
Comment se fait-il que vous ayez 30 ans en master 2 de géographie?
En fait, c'est à cause de ces conditions-là que j'ai repris la licence 3 reprises.
Vous avez redoublé?
J'ai redoublé la licence 3 fois parce que je ne parvenais pas à avoir un logement. J'étais obligé de rentrer chez moi parce que ça fait 50 km, ça fait 50 km de Dakar. Et sortir de Dakar, c'est un véritable calvaire.
Et vous êtes obligé de travailler parallèlement ou pas?
Bien sûr, tu es obligé de travailler parallèlement
pendant la nuit. Qu'est-ce que vous faites comme travail?
Pour l'instant, je suis dans une usine qui fabrique des biscuits. Je suis obligé de travailler la nuit.
Combien d'heures par semaine vous travaillez dans cette usine?
Je travaille presque 5 heures, de 22 heures jusqu'à presque 6 heures du matin, voire 7 heures. Après, je rentre à l'université. Mais moi, mon cas, j'ai un parent qui m'a hébergé chez lui, dans une chambre qui ne fait pas 5 mètres carrés, et on est 5 là-bas.
Ouais. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à vous en sortir en travaillant, si je calcule bien, largement plus de 30 heures par semaine. Bon courage, Mamour. Merci beaucoup pour cet appel. Merci infiniment.
Merci, Emmanuel.
Vous continuez de nous appeler. Vous avez la parole pour parler de vos conditions de vie étudiantes de manière concrète, comme Mamour. Nous donnons la parole à Lamine qui nous appelle de Conakry, en Guinée-Conakry. Bonjour, Lamine.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes étudiant, vous êtes étudiant en journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. C'est un institut qui dépend de l'université publique, c'est bien cela, mais en principe avec de meilleures conditions d'études parce que plus sélectif.
Oui, très sélectif parce qu'il n'y a pas assez de monde ici. C'est un petit institut et d'ailleurs c'est le seul dans tout le pays.
Quelles sont Alors, je crois que vos difficultés financières, Lamine, c'est essentiellement les coûts du transport.
Oui, les coûts du transport, parce que là, chaque matin, il faut que je paye le transport. Pour un peu économiser, il faudrait que je rentre à minibus. Et là, c'est une vraie galère, je veux dire. Et après ça aussi, mes difficultés sont un peu liées au manger, parce que là, je suis à Conakry, je ne vis pas avec mes parents.
Oui.
Donc, il faut que je mange le matin. Le matin, je ne mange pas parce que je sors très tôt. Je mange à 11h.
Oui.
Après 11h, je rentre vers 17h, je mange à 18h. Et après, vers 0h, c'est les trois repas.
Oui.
C'est le quotidien, en fait.
Vous avez 20 après ans et vous avez besoin absolument d'économiser sur tous les jours.
Oui, j'ai besoin d'économiser parce que je reçois un peu d'argent de la part de mes parents qui sont en fonction à l'intérieur du pays. Et quand j'ai ça, je viens là, j'économise quelquefois sur le transport. Mmh. J'ai des jours libres aussi parce que je viens du lundi au samedi. Mmh. Et avec les devoirs, quelquefois même, j'ai des manques à gagner. J'ai un manque grave quelquefois parce qu'il y a des devoirs. Je dois me rendre sur le terrain pour recueillir les informations et revenir si c'est...
Et vous travaillez parallèlement pour payer vos études?
Bon, quelquefois, je fournis des services informatiques. Quand je dis services informatiques, c'est la conception de logos,
oui.
La conception de cartes de faire-part, oui. La conception
pour
également...
Pour payer votre logement et vos transports. Merci beaucoup, Lamine, de nous avoir appelés. Je crois qu'on est vraiment dans le vif du sujet, presque partout dans le monde aujourd'hui quand même. Les étudiants, alors bien sûr, à des degrés différents, mais les étudiants connaissent des difficultés pour vivre en tant qu'étudiant. Jean-François Giray, vous avez dirigé cette enquête auprès des étudiants en France, où bien sûr les conditions de vie étudiante sont sans commune mesure avec les étudiants sur le continent africain. On a 2,5 millions d'étudiants en France. Votre enquête de l'Observatoire national de la vie étudiante a été réalisée sur un gros échantillon, 41 000 étudiants. Vous dites d'emblée que ce rapport, c'est vraiment un rapport sur les vies étudiantes.
Oui, tout à fait. Il me semble très difficile de raisonner en France sur un étudiant moyen, parce qu'il y a vraiment une très forte hétérogénéité des publics étudiants en France et donc des vies étudiantes. Et on a tendance parfois, en regardant un peu les statistiques de loin, finalement penser que le budget étudiant étant, par exemple, entre 800 et 1000 euros, les étudiants s'en sortent bien, sont plutôt privilégiés dans la société. Non, il faut regarder dans le détail et voir qu'il y a une extrême hétérogénéité de vie étudiante selon l'origine sociale, selon naturellement les études, parce que les choix d'études sont très inégalitaires, selon le lieu où l'on vit, etc.
Quand vous dites entre 800 et 1000 euros, ça comprend quoi? Ça veut dire quoi, ce chiffre, entre 800 et 1000 euros par mois pour les étudiants?
C'est vraiment le revenu moyen, mais ça dépend du...
Ça veut dire en comptant les aides au logement de l'État, par exemple?
En comptant tout, bien sûr. Les aides au logement de l'État, pour ceux qui en reçoivent, les aides des parents, et évidemment le travail salarié, les revenus salariés des étudiants, pour ceux qui travaillent durant les études.
Oui, donc des situations extrêmement contrastées. Quand on est étudiant à l'université de Caen, qui n'avait pas de chauffage jusqu'à il y a encore quelques jours, me semble-t-il, avec des températures polaires dans l'amphithéâtre parce que le chauffage était cassé, qu'il vient d'être réparé, ou le campus d'une grande école de commerce privée extrêmement luxueuse, évidemment que les vies étudiantes ne se ressemblent pas.
Tout à fait. Mais en plus, on peut se dire que globalement, ce qui se passe à l'université ou dans les lieux de formation, ça reste quand même de manière générale plutôt correcte. C'est ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe en dehors du lieu de formation, dans les transports, dans le logement, etc. Et c'est là où on voit les étudiants qui ont réellement des difficultés, dans l'accès aux soins, par exemple, où on voit qu'il y a quand même un quart des étudiants qui renoncent à aller voir un médecin. Alors, c'est pas que pour des raisons financières, mais les raisons financières occupent une part très importante sur ces questions-là.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une paupérisation des étudiants en France ou pas ?
Alors c'est difficile, je n'irai pas jusque-là. Ce qui est clair, c'est que la crise a eu quelques effets. On voit une baisse du pouvoir d'achat, hein, une baisse du pouvoir d'achat d'environ 10%, hein, notamment pour les étudiants qui ont des cohabitants, hein, ceux qui quittent les parents. Là, c'est assez net, c'est à peu près 10%. Pour les autres, globalement, hein, pour l'ensemble des étudiants, c'est 5%. Mais donc, on voit une baisse du pouvoir d'achat des étudiants. Mais globalement, je dirais que finalement... lorsqu'on regarde un peu les indices de privation des étudiants, quoi, finalement, est-ce qu'il manque de certaines choses ou pas ? Ça évolue peu, ça évolue un tout petit peu, mais peu ces dernières
justement,
années.
Justement, c'est quoi les indices de privation des étudiants ?
Les indices de privation, c'est ne pas avoir assez d'argent pour faire pour sortir, hein, pour aller au cinéma ou pour éventuellement manger ou pour avoir des difficultés d'accès au logement suite à une baisse des revenus, etc. Ça peut être ça. Et bon, et globalement, où ça peut être. Également des indices de difficultés financières, c'est-à-dire la part des étudiants qui piochent dans leurs économies, qui sont en découvert bancaire. Voilà. Et donc, ça, globalement, c'est stable. Hein. Par exemple, on a 30% des étudiants là, qui sont en découvert bancaire, qui ont eu des découverts bancaires pour financer leurs études. Et finalement, c'est à peu près stable là, ces dernières années. Donc, on a enfin, globalement...
Alors, il faut qu'on parle du logement. Parce que, Julia Fauconnier, vous êtes avec nous de Studiarama. On est vraiment une période de l'année où, en principe, les étudiants ont tous trouvé un toit, hein, enfin, j'espère pour eux, pour démarrer leur année universitaire. Mais souvent, avec un nombre incalculable de galères à la fin de l'été pour trouver une piôle, comme vous dites.
Oui, tout à fait. Si on reprend le chiffre de revenu moyen de 800 à 1000 euros... ce qui est en plus un revenu moyen quand on...
Par mois.
Hein, exactement, par mois, quand on compare ne serait-ce qu'à le prix d'un studio à Paris, plus le mois de caution, on se doute bien que c'est
extrêmement
problématique.
Alors on va redonner peut-être un peu les prix à Paris, mais enfin, il n'y a pas que des étudiants.
C'est compliqué,
à Paris.
Tout à fait, mais Paris intramuros, pour une chambre en coloc, c'est 650. Pour un studio, à part des chambres de bonne qui sont... où c'est même de à peu près 650, c'est rare de trouver et c'est pas dans des conditions top.
En province, les prix sont nettement plus bas.
En province, évidemment, les prix sont plus bas, notamment dans les villes de moyenne taille. Il y a encore des prix relativement élevés, mais qui n'ont rien à voir avec Paris intramuros dans les grosses villes comme Bordeaux ou Lyon. Ça reste un peu soutenu, mais ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je reprends l'idée des vies étudiantes ou des conditions étudiantes. Oui. Parce que voilà, c'est compliqué au niveau des galères. Si on reprend le premier auditeur, c'est vrai qu'à Paris, par exemple, va y avoir quelques places, plus de places en résidence Crous ou des loyers.
Donc les résidences universitaires
qui
dépendent de la gestion publique.
Exactement, hein. Qui dépendent de la région publique, qui sont évidemment en sous-nombre par rapport au nombre d'étudiants et surtout par rapport au nombre de demandes. Ce qui fait que, notamment en région parisienne, mais ça peut être vrai pour toutes les grandes villes, certains étudiants les plus précaires devront s'éloigner. Aller vers Aubervilliers, vers Créteil, vers Orsay, ce qui veut dire quand même des temps de trajet supplémentaires, qui veut dire que certains préféreront se tourner vers le parc privé, s'ils peuvent, et que les étudiants vont développer un petit peu des plans B qui vont être de la sous-location, la colocation qui est en explosion, et d'autres...
Donc colocation, voilà. On loue un appartement à plusieurs. Hein.
Exactement. Et, c'est...
et des astuces qui se développent quand même beaucoup en France. Hein.
Oui, il y a pas mal d'astuces qui se développent et surtout, il y a des logements alternatifs peuvent se développer. Pas mal, notamment des chambres chez l'habitant. Qui peut être des chambres soit contre un certain nombre de services aux parents, comme du babysitting ou de l'aide aux devoirs, soit il y a le logement intergénérationnel qui se développe, c'est-à-dire vivre avec un senior. Et dans tous les cas, c'est...
Ça
revient beaucoup moins cher.
Et d'autant plus qu'on a des adultes dont les enfants sont partis étudier ailleurs, qui ont une chambre disponible, qui ont eux-mêmes des études à payer pour leurs enfants et qui sont contents de louer une chambre dans leur appartement. C'est
et des personnes âgées. Exactement. Alors juste un petit détail, mais très important, pour ce genre de logement, il faut vraiment que les étudiants se mettent d'accord avec les propriétaires par écrit sur les règles d'échange.
Pour éviter les galères.
Exactement.
Vous restez tous les deux avec nous, Jean-François Giret, Julia Fauconnier. Quelles sont aujourd'hui les conditions de vie réelles des étudiants ? Peut-on encore parler de cette parenthèse heureuse dans la vie ? Bien sûr, vous avez la parole, les voisins et les voisines. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. On parlera des étudiants en Amérique du Nord, juste après le flash. Et également, nous reviendrons sur la révolte étudiante en Afrique du Sud. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI. Restez avec nous.
RFI, au cœur de la COP.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Quelles conditions de vie pour les étudiants? On en discute avec vous, Jean-François Giré. Vous êtes en duplex avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Bourgogne. Vous êtes l'auteur, vous avez dirigé le gros rapport sur les vies étudiantes, tendances et inégalités, publié par l'Observatoire national de la vie étudiante. C'est une enquête qui porte sur 41 000 étudiants. Il faut préciser qu'on a une vraie augmentation de la démographie étudiante, un boom démographique en France, plus de 45 000 étudiants pour cette rentrée-là, 2016. Julia Fauconnier, vous êtes avec nous, vous êtes journaliste à Studierama, qui est un magazine centré sur la vie étudiante. Et avant de donner la parole à la sociologue Cécile Van de Velde à l'Université de Montréal, pour qu'on parle des étudiants nord-américains, retour sur le continent africain. On entendait des témoignages d'auditeurs assez accablants sur les conditions d'études dans les universités sur le continent. Les situations là aussi sont très contrasté entre les écoles privées et les universités publiques, même si, évidemment, entendu de loin, les étudiants se retrouvent toujours tous plus ou moins dans une même clameur de mécontentement. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Retour sur le mouvement étudiant en Afrique du Sud avec notre correspondante Alexandra Branjon à Johannesburg. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Vous avez rendu compte pour RFI des très grosses manifestations étudiantes ces derniers mois contre le coût élevé des scolarités dans les universités sud-africaines. Où est-ce qu'on en est de cette mobilisation étudiante aujourd'hui ?
Écoutez, elle est un peu retombée, hein, puisque ça fait depuis le mois de septembre qu'il y avait des manifestations. Elles avaient commencé quand le gouvernement a autorisé les facs à augmenter leurs frais universitaires pour la prochaine rentrée, donc en janvier 2017. Mmh. Ce sont des facs publiques financées en partie par l'État et par les frais payés par les étudiants. Sur les 27 universités que compte le pays, plus d'une dizaine a fermé ses portes pendant quelques semaines. Certaines, comme WITS, la prestigieuse fac ici à Johannesburg, a même fermé pendant plus d'un mois en raison de violences sur le campus. Alors, il y a eu des heurts, des magasins pillés, des arrestations. Et puis, le mouvement s'est peu à peu essoufflé. Alors, même si les cours ont repris aujourd'hui, bah, écoutez, la contestation est toujours là.
Et concrètement, qu'est-ce que les étudiants ont obtenu ?
Alors, le gouvernement a annoncé qu'il allait payer les frais d'inscription pour les plus pauvres, hein, mais ce n'est pas ce que demandaient les étudiants. Eux veulent une université gratuite pour tous. Et ils rappellent qu'il s'agit d'une des promesses de l'ANC quand le parti est arrivé au pouvoir. Donc, ça fait 2-3 ans que cette contestation boue et que cette revendication revient. Et puis, pour la première fois cette année, le gouvernement a admis que l'université gratuite pour tous, ce n'était pas possible, qu'il n'en avait pas les moyens et que l'objectif serait une université gratuite pour les plus pauvres. Donc les revendications n'ont pas été entièrement satisfaites et ces manifestations risquent de reprendre dès la rentrée là, en 2017.
Et au quotidien, alors quelles sont les conditions de vie des étudiants modestes avec des frais de scolarité élevés ?
Alors, les frais universitaires ici sont disproportionnés par rapport au salaire moyen des Sud-Africains. Par exemple, à WITS, les frais d'inscription pour une année, c'est un minimum de 3 000 €, ce qui est hors de portée pour la grande, grande majorité des Sud-Africains noirs. Et c'est ce que reprochent les étudiants. Ils disent 22 ans après la fin de l'apartheid, la majorité noire est toujours en bas de l'échelle sociale et une des raisons à cela, c'est le manque d'accès à l'éducation. Alors, lors d'une de ces manifestations, je discutais avec une étudiante de WITS qui me disait qu'elle avait déjà eu du mal à payer ses inscriptions, mais même une fois inscrite, elle n'arrivait pas à suivre les cours parce que sa famille habite très loin. Elle n'a pas les moyens de payer un logement plus près et donc il fallait faire des choix entre, par exemple, s'acheter à manger ou payer son transport. Certains profs me disaient que des étudiants dormaient dans la bibliothèque, justement, faute de logement. Et donc, un sentiment pour ces étudiants d'être désavantagés dès le départ, notamment par rapport aux étudiants blancs. Et je pense que c'est ce qui est important de souligner, c'est que WITS, par exemple, s'est radicalement transformé en 10 ans. D'une fac majoritairement blanche, aujourd'hui, plus des 3/4 des étudiants sont noirs. Le problème, c'est que beaucoup ont de mal à terminer leur année universitaire à cause de ces difficultés financières. Il ne s'agit pas juste de pouvoir s'inscrire, mais ensuite, il faut pouvoir payer tout ce qu'il y a autour. Donc, une fois de plus, ces étudiants disent que 20 ans après la fin de l'apartheid, ça n'est pas normal que le gouvernement ne fasse pas plus pour réduire ces inégalités.
Merci beaucoup, Alexandra Branjon, en direct de Johannesburg. Jean-François Giré, les difficultés financières et la corrélation avec l'échec dans les études, l'abandon d'études, est-ce que c'est quelque chose que vous observez vous en France, que vous inspire l'analyse de notre correspondante en Afrique du Sud ? Jean-François Giré, est-ce que vous êtes toujours avec nous à Dijon, en duplex avec les moyens techniques de France Bleu Bourgogne? Il semblerait que nous vous ayons perdu. Vous êtes revenu avec nous? Ah, on a une rupture de ligne. On va essayer de rétablir la liaison. Julia Fauconnier, vous êtes journaliste spécialisée en vie étudiante pour les étudiants français. Qu'est-ce que vous avez entendu là, le problème entre les difficultés financières, l'abandon d'études, ce sont des sujets que vous traitez à Studiarama?
Il y en a. Au niveau de l'abandon d'études, c'est aussi les questions d'échecs. Qui peut être lié au travail, notamment effectivement les étudiants qui travaillent. On estime qu'il y a qu'au-delà de 20-25 heures par semaine, ça menace les études, que ce soit au niveau de la fatigue, que ce soit au niveau de l'absentéisme, que ce soit au niveau de... Donc c'est un peu compliqué pour ça. La deuxième chose, c'est même pour les étudiants boursiers qui travaillent, quand on parle d'absentéisme, ils peuvent perdre leur bourse aussi. Mmh. On a le droit à des absences justifiées, mais parfois, voilà, pour le travail, c'est pas forcément une justification suffisante. Donc voilà, les étudiants.
Et ce sont les étudiants boursiers qui ont en général aussi le plus besoin de travailler, parce que la bourse n'est pas forcément suffisante.
Non, les bourses ne vont pas être suffisantes pour vivre. Ça va être des vrais coups de pouce, mais c'est pas forcément suffisant. Et donc c'est plus dans le fait de devoir effectivement jongler avec ces différentes réalités, ce qui fait aussi que les étudiants boursiers peuvent être loin de leur lieu d'études, plus loin de leur travail. Tout ça peut être un cycle un peu négatif. La deuxième chose, c'est qu'on estime que le travail étudiant peut être une bonne chose quand il est en lien avec les études. Mmh. Or, généralement, les jobs étudiants ne le sont pas forcément.
Ouais. Livreur de pizza, quand on est étudiant en médecine, ce n'est pas formidable.
Exactement. Donc, pour les plus chanceux d'entre eux, ils peuvent avoir un travail qu'ils vont pouvoir valoriser. Pour les autres, c'est devoir jongler entre tout ça. On voit ces difficultés qui reviennent de façon récurrente.
Jean-François Giré, vous êtes en ligne avec nous de Dijon.
Oui.
Je vous interrogeais sur le lien entre les difficultés financières et l'échec dans les études, l'abandon d'études.
Ce qui est évident, c'est que ça passe notamment, pas exclusivement, hein, mais notamment par le travail durant les études et le salariat étudiant. Et on voit que bon, il y a à peu près un jeune sur deux qui travaille durant les études. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les différentes enquêtes. On constate pas d'augmentation. Par contre, on voit que de plus en plus d'étudiants travaillent plus, c'est-à-dire ont des activités salariées plus intenses. Et on sait par ailleurs que ces activités salariées plus intenses, tout au long de la semaine, dégradent les conditions de réussite durant les études et augmentent le décrochage à l'université. C'est ça qui est important. Travailler peu, c'est pas trop grave, ouais. Mais commencer à travailler plus de 10 heures, 12 heures, même, puisqu'on est plutôt à ce niveau-là, mais là, ça commence à être négatif pour le résultat scolaire. Et ça, c'est très important, cet effet négatif du travail durant les études sur la réussite.
Alors, on annonce depuis des années des plans pour aider les étudiants, pour la réussite des étudiants, des plans notamment aussi pour revenir sur le problème récurrent du logement étudiant. Il y avait un objectif qui a été lancé pour la fin du quinquennat de 40 000 logements étudiants. Vous, c'est aussi un sujet sur lequel vous revenez largement dans le rapport sur les vies étudiantes.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un problème de fond, puisqu'on voit en plus qu'on a une tendance qui est souhaitable, la décohabitation. On voit que de plus en plus d'étudiants...
Décohabitation, c'est-à-dire couper le cordon avec sa famille pour s'émanciper, c'est aussi ça l'occasion des études.
Tout à fait. Et c'est de l'autonomie. Et on voit qu'à peu près, là, ça augmente progressivement. On est à deux étudiants sur trois qui décohabitent durant les études. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais effectivement, le problème, c'est évidemment l'accès au logement. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, lorsqu'on regarde les logements, c'est la part du locatif privé qui augmente le plus. L'aspect résidence universitaire stagne à peu près, c'est à peu près 15%,
et ça bouge pas. On voit clairement aujourd'hui fleurir des chaînes de résidences universitaires privées dans toute la France, dans les villes de province notamment, où il n'est pas très cher de faire construire un petit immeuble pour le transformer en résidence universitaire. Et tout ça ensuite est découpé en petits studios. Et c'est un marché extrêmement lucratif aujourd'hui, Jean-François Giré.
Effectivement, c'est un marché lucratif, mais ce qu'on voit également, parce qu'il faut regarder côté de la demande des étudiants, ce qu'on voit également, c'est que parmi les ressources des étudiants, on voit que s'il y a une ressource qui baisse, c'est les ressources des parents du fait de la crise. Mmh. Et ça c'est important parce que les ressources des parents sont très inégalitaires, c'est ce qu'on voit, ce qu'on montre également dans l'ouvrage, notamment Olivier Galland. Et donc ce qui fait que en fait le risque c'est de vraiment avoir une segmentation de la population étudiante et de défavoriser les plus modestes dans l'accès au logement. C'est ça, parce qu'on sait que c'est vraiment le revenu des parents qui permet principalement de financer cet accès au logement.
Oui. Donc d'où
une inquiétude.
L'obligation pour une bonne part des étudiants de travailler pour financer le logement.
Tout à fait, surtout à partir d'un certain âge. Et donc, si on regarde un peu dans le long terme, si on continue l'augmentation des flux étudiants, on peut penser qu'il va y avoir de très fortes difficultés à l'avenir sur ces questions-là, notamment dans certaines régions, où l'on voit déjà le temps de transport, effectivement, on parlait de la région parisienne, qui augmente. Là, j'ai des derniers chiffres sur la région parisienne, et on voit le temps de transport des étudiants qui augmente assez sensiblement.
Ouais, sur le temps de transport, oui, ça concerne la région parisienne, mais pas que, hein, d'ailleurs, Julia Fauconnier. Mais ça devient un vrai problème central pour les étudiants. Ça, la perte de temps dans les transports.
Oui, surtout encore une fois quand ils doivent cumuler du travail et puis des études et puis parce que on leur dit parce que il y a aussi une envie d'engagement ou d'activité, notamment sportive. Forcément, même au niveau de ce qu'on disait sur les constructions de résidence, c'est rarement en centre-ville. Ça va être plutôt dans l'Île-de-France, dans les académies de Versailles ou de Créteil aussi. Donc voilà.
Dans quelques instants, on parle des étudiants, des conditions de vie des étudiants nord-américains avec Cécile Van de Velde, qui est sociologue à l'Université de Montréal maintenant. Ça sera juste après Rêve. Singing in the Wawa West, John in my mouth like ceiling is my Wawa quest. I really do nothing except dress, shoot my guns, ride my horse, I'm a Wawa mess. But mom came to me, gave me one a test. I must confess, I didn't know that you were blessed. I heard you the only cowboy in the old west. That can speak bars like that, that make you the best. And let the music go. Let the music go. Let the music go, say. Let the music go. Let the music go. Say, yeah. I have a melody for you, you be killing it. I responded that I knew that while I took a hit. Breathe in, breathe out, I'm full of shit. But I need to make a change, so I be killing it. See, I'm feeling it, we gonna make the world change. Homie, I'm telling you, we gonna make this music spread. Let's go grab a beer, the salon's a wedding. I heard it's so exciting that they've been fighting. That they've been fighting. I heard it's so exciting that they've been fighting. And let the music go. We'll be touring for some time now. LA's been in prison every town, y'all. I'm like Billy the Kid, except I'm Flo. We could be anybody, but it is mom. We shoot bullets in the brain with a show. Better than cleans when it comes to the flow. How would they be telling a story some hoe? Cause I'm drying this beat like I'm milking a cow. Man, I think that we deserve a break. It's time to let them light up and be fucking bait. The desert seems like a really good place. You can bull sing out loud for the outer space, yo. Really marshmallows over the campfire. Like a legs open, my mind's on fire. But that's another story, so I'll tell you later. But keeps your mind open, cause that's a bestseller. Keep your mind open, cause that's a bestseller. Cécile Van de Velde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'Université de Montréal et vous êtes co-auteur du rapport de l'OVE sur les vies étudiantes. Dites-nous quelles sont actuellement les principales différences entre les vies étudiantes en France et en Amérique du Nord où vous travaillez.
Alors la principale différence, mais elle va avoir beaucoup de conséquences sur les expériences, c'est le mode de financement. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, c'est un régime qu'on appelle plus libéral. Et donc faire des études, oui, c'est considéré comme encore rentable. qui a disparu en Europe. Donc il y a un désir de faire des études pour pouvoir accéder à un statut dans la société. Par contre, elles sont très chères. Ça, on le sait. On a vu des mouvements étudiants se réveiller, donc le printemps érable, par exemple, à Montréal, mais d'autres aujourd'hui sur la dette aux États-Unis, parce qu'elles sont très chères. Et qu'est-ce que ça veut dire très cher? Ça veut dire que concrètement, dans leur vie de tous les jours, il y a deux sources de financement. Les parents interviennent, mais assez peu. C'est assez minoritaire comme source de financement. Les deux principales, c'est le travail, travailler à côté de ses études, et la dette, donc l'endettement. Et donc, on a des étudiants qui, certes, ont des perspectives par rapport à l'Europe, c'est-à-dire que se disent encore que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, mais au quotidien, il y a une souffrance, il y a une pression temporelle sur le temps, parce que travailler, ça veut dire travailler en général plus de 20 heures par semaine à côté des études, donc travailler à côté des études, et en plus s'endetter. Et donc il y a comme une chape de plomb, il y a quelque chose de très lourd qui est en train de s'enciller sur les trajectoires des Nord-Américains, ils gardent leur optimisme, mais au quotidien, il y a une usure. Et donc, on sent que ce qui est l'enjeu, c'est de tenir jusqu'au bout des études.
Et donc, du coup, des étudiants qui ont des vies quotidiennes plus proches de celles des adultes au travail, oui. Qui courent après le temps, oui. Comme tout le monde.
Exactement.
On est loin de l'idée de la parenthèse heureuse, là.
Alors, on est très loin de la parenthèse heureuse. Le problème, c'est que ça reste dans les esprits. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans les études quand même avec l'idée d'une parenthèse heureuse et qu'en fait, cette idée est vite désenchantée et que donc ils se retrouvent dans des emplois beaucoup de services. Donc, la plupart, par exemple, moi, très concrètement, dans mes séminaires de sociologie à l'Université de Montréal, la plupart de mes étudiants, donc des fois arrivent en retard en cours parce qu'ils viennent de servir au bar ou des fois arrivent très fatigués le matin parce qu'ils ont travaillé et on sent qu'il y a un poids de ce travail étudiant sur le parcours même des études. Et que ce qui disparaît, c'est le temps libre. Il n'y a pas de temps libre. Et chez les Français non plus, il n'y a pas de temps libre pour d'autres raisons. Mais c'est vrai qu'on sent que du coup, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a l'idée d'une pression, d'un parcours du combattant. En plus, le financement, il y a aussi quelques bourses qui sont offertes, mais c'est au mérite. Donc ça offre une très forte compétition entre les étudiants. Et donc, c'est vrai qu'ils sont plus désenchantés qu'on aurait pu le croire en arrivant d'Europe, puisque pourtant, il y a un taux de chômage qui est moins fort à l'issue des études. Mais le poids de la dette,
un taux de chômage qui est moitié moins important, oui. Largement, même encore en dessous par rapport à la France.
Exactement. Hein. Les perspectives, ils gardent un optimisme. Ils gardent un optimisme plus fort que les jeunes Français ou que les jeunes Espagnols qui vont être confrontés au chômage, qui l'intériorisent peu à peu et ça fait effectivement quelque chose d'assez lourd sur les trajectoires. Eux gardent leur optimisme. Par contre, c'est après les études aussi, ils vont quand même avoir une tension sur le choix. Parce que le poids de la dette, très concrètement, ça veut dire qu'à l'issue des études, ils vont être plutôt tentés d'aller chercher un emploi qui gagne bien pour pouvoir rembourser la dette, mais qui parfois est très loin de leur chemin d'études. Et c'est là où il y a une petite fracture qui est en train de se passer aux États-Unis et au Canada, c'est que leur choix même d'études est remis en cause et potentiellement, effectivement, ça peut donner un sentiment d'injustice, voire de révolte parfois.
Quelles sont leurs relations avec les professeurs par rapport aux attentes de l'université? Sont-ils plus investis, plus contestataires qu'avant?
Pour moi, c'est très frappant. Par exemple, en tant qu'Européenne, j'ai dû apprendre à faire cours ici, c'est extrêmement différent. Les relations sont beaucoup plus, je pourrais dire, informelles. Par exemple, les étudiants peuvent me tutoyer, je peux les tutoyer. C'est pas obligatoire, mais ils ont l'habitude de tutoyer les professeurs. L'accompagnement est très intensif et attendu de la part des étudiants. Ils payent leurs études. Donc, il y a aussi, c'est pas non plus une relation de service. La relation pédagogique est là, elle est souvent relativement chaleureuse. Mais c'est vrai qu'il est légitime. Si, par exemple, un étudiant écrit un courriel, je sens que j'ai une expectative, une attente très forte sur moi de répondre très rapidement. Donc, il y a une relation comme ça qui est plus serrée et moins hiérarchique que les relations pédagogiques en Europe. Et ils attendent très fortement des choses très précises du professeur. Tout ça dans une relation effectivement très sympathique, d'accompagnement. On est plus comme des serviteurs d'accompagnement dans leur cheminement propre d'études.
Cécile Van de Velde, vous connaissez bien aussi les étudiants en Europe, dans le reste de l'Europe. S'il y avait une parenthèse vraiment heureuse pour les vies étudiantes, où se situerait-elle géographiquement?
Très clairement, et on le voit aussi dans les statistiques, la poche de résistance sur la condition étudiante, elle se situe pour l'instant au nord de l'Europe. C'est-à-dire que face à la crise mondialisée, partout, même dans les pays d'Afrique, même dans les pays d'Asie, ce qui s'est passé, c'est la montée d'un doute. Les études, à quel prix? On a ouvert les vannes de l'enseignement supérieur, donc ça a créé des aspirations, on a choisi un chemin d'études. Et dessus, 2008, la crise mondialisée qui a touché plus ou moins tous les pays, en tout cas tous les jeunes, et notamment diplômés de ces pays. Et donc, on voit qu'il y a un doute sur la méritocratie, sur les études, qui est en train de s'installer partout. Là où il s'installe le moins, même si c'est, il y a aussi des points de tension, bien sûr, hein, c'est au nord de l'Europe. Parce que le nord de l'Europe, face à la crise, il y a eu des concertations parce qu'ils ont eu toujours des politiques très généreuses envers les étudiants. Que ce soit sous forme de prêts ou de bourses, les études permettent l'indépendance par rapport aux parents. Elles sont quasi financées par l'État, même si j'exagère un peu, mais il y a quand même une aide très généreuse. Par exemple, au Danemark, c'est là où c'est le plus généreux, ils ont droit encore à 72 bons pendant 6 ans de plus de 1 000 euros qui peuvent cumuler avec de l'emploi. Et donc, ça permet d'être indépendant de ses parents et aussi d'avoir quand même un horizon assez sécur pour engager ses études. Et surtout, ils peuvent y revenir. Ils peuvent retourner aux études à 30 ans s'ils n'ont pas fini leur bon.
En conclusion, mieux vaut être
Danois ou nord-européen pour pouvoir aujourd'hui avoir des études relativement sereines, même s'il faut mettre des gros guillemets, parce qu'il y a aussi un doute qui s'installe, même au nord de l'Europe, sur les perspectives même de pouvoir vivre son choix d'études.
Merci Cécile Van de Velde, sociologue à l'Université de Montréal et co-auteur du rapport sur les vies étudiantes.
Merci, très bonne journée à vous.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Jean-François Giré de l'Observatoire de la vie étudiante en France. Alors, il y aurait donc une terre promise pour les étudiants qui s'appellerait l'Europe du Nord, hein ?
Oui, certainement, certainement.
Par rapport à la France, à n'en pas douter.
Mais je voudrais nuancer un peu les propos de Cécile, bien qu'elle ait raison sur la vie étudiante. C'est lorsqu'on regarde un peu les débouchés professionnels des jeunes, effectivement, il y a une certaine inquiétude, mais qui n'est pas non plus majeure chez les étudiants. On a plus de 50% des étudiants qui disent avoir de bonnes chances, qui pensent avoir de bonnes chances d'insertion professionnelle. Vous allez me dire, ça veut dire que les autres moins, mais effectivement. Mais globalement, lorsqu'on regarde par rapport aux autres diplômés aux autres sortants du système éducatif, en France, mieux vaut avoir un diplôme que de ne pas l'avoir, et surtout en France, quoi. Donc, si vous voulez, effectivement, ils pensent qu'ils vont avoir des difficultés. Certains vont avoir des difficultés sur le marché du travail, mais franchement, par rapport à ceux qui sortent de l'enseignement secondaire avec un CAP ou sans diplôme, ça n'a rien à voir comme difficulté. Les conditions sont beaucoup plus difficiles. Et c'est le cas, et vraiment c'est le cas en France. Et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Hein, dans d'autres pays. Les différences, même dans les pays en développement, les différences sont moindres entre l'insertion des diplômés du supérieur et les autres.
Ceci dit, la France est quand même assez généreuse dans les aides sociales pour les étudiants. Mais Julia Fauconnier, vous êtes souvent sur le terrain, en discussion avec des étudiants à Studirama. Vous dites souvent qu'ils ne connaissent pas bien en fait, les aides. Alors, il y a bien sûr l'allocation logement que tout le monde connaît, les APL. Hein, c'est comme ça que
c'est un PLALS.
Oui, ouais. Ça qui sont largement connus, hein, qui sont d'ailleurs accessibles à tous les étudiants, sauf ceux dont les parents payent l'impôt sur la fortune, c'est bien cela.
Oui,
mais en dehors de ces allocations qui peuvent être conséquentes, hein, plusieurs centaines d'euros par mois parfois, mais sinon, il y a d'autres aides que les étudiants ne connaissent pas bien.
Exactement. De même qu'ils ne connaissent pas toujours les alternatives aux studios privés, ils ne savent pas forcément qu'il existe par exemple certaines aides locales, comme l'AILE, qui est l'aide à l'installation de logements étudiants à Paris, qui s'élève quand même à 900 euros qu'on peut toucher une fois dans sa scolarité.
Ouais. Et qu'on demande à qui ? À la région, en fait ?
On demande, voilà.
À la région Île-de-France ?
Voilà, tout à fait. À la mairie de Paris, parce que sont les boursiers qui vont signer un bail et qui sont dans un établissement supérieur d'Île-de-France. Sur certaines conditions, l'aide au logement à Paris peut être accordée à des étudiants. Sous condition de ressources, évidemment. Il y a l'aide Mobilijeune, par exemple, qui est destinée aux alternants de moins de 30 ans.
Oui, les étudiants qui sont en alternance.
Qui sont en alternance, exactement. Mmh. Et ça peut aller jusqu'à 100 euros par mois. Une autre chose que les étudiants ne savent pas forcément, c'est que s'ils n'ont pas de garants familiaux, des garants existent. Donc, il était mis en place la clé. Caution locative étudiante, qui est une caution d'État pour les étudiants qui ont un revenu.
Ça, c'est que si on doit louer un studio, une chambre dans le parc privé, hein, le propriétaire, le bailleur va demander, bien sûr,
exactement.
Une caution.
Voilà, un garant. Mmh. Et ça peut poser problème, notamment pour les niveaux des dossiers des parents. Il y a l'aide Locapass aussi, qui peut avancer la caution et être une garantie au maximum pendant 9 mois. Il y a Visal. pour les non-boursiers, pour les trois premières années, pareil, et UniPlace pour les étudiants internationaux. Souvent, c'est ça qui manque. C'est l'accès des étudiants aux informations.
Jean-François Giré, il nous reste une minute pour que vous répondiez à une question plus politique en tant que directeur de l'Observatoire de la vie étudiante. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. On a une vraie augmentation, une vraie poussée démographique de la démographie étudiante, plus 45 000 étudiants rien que pour cette rentrée-là, des rallonges budgétaires qui sont décidées un peu dans l'urgence. On parle de 850 millions d'euros pour le budget 2017. Comment vous voyez le bilan sur ce quinquennat vis-à-vis des étudiants en France ?
Alors, juste, je suis président du collège scientifique de l'Observatoire de la vie étudiante. Je suis un universitaire, donc voilà.
Justement, vous avez d'autant plus un avis.
Tout à fait. Ce qui est clair, il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts de ce gouvernement assez nets. Mais hélas, il y a une insuffisance. Il y a une insuffisance par rapport notamment à l'augmentation des flux. Il faut à la fois réfléchir de deux côtés. Du côté du financement des établissements d'enseignement supérieur qui ont des réelles difficultés à faire face.
Pas mal d'universités qui sont dans le rouge à l'heure actuelle.
Dans le rouge. Je vois même la mienne. On n'arrive pas à proposer une offre de formation que l'on devrait proposer. Donc il y a des problèmes. Et il y a également des problèmes pour la vie étudiante et notamment pour les étudiants les plus en difficulté. Et ça, c'est vraiment le point où il faut faire très attention. C'est que ne pas aggraver les inégalités. Et on voit que les inégalités s'aggravent. Parce que, évidemment, la vie étudiante a la condition sur les conditions d'études et puis après sur les inégalités sociales. Évidemment.
Sujet à suivre, bien évidemment, surtout dans les mois qui vont venir avec les débats qui vont arriver aussi sur la scène politique. Merci beaucoup, Jean-François Giré. Vous publiez Les vies étudiantes, tendances et inégalités à la documentation française. Julia Fauconnier, on retrouve le site Studirama sur Internet, studirama.com, avec tous les conseils que vous avez donnés. Merci à vous aussi, les voisins, pour vos témoignages. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission chaque jour. Lundi, 7 milliards de voisins, nous resterons au plus près des problèmes des jeunes. Reportage à Madagascar où s'ouvrira le 16e sommet de la francophonie. Reportage auprès d'une jeunesse enclavée par le sous-emploi, mais en même temps extrêmement dynamique. À lundi.